Bonjour à tous, je pense qu'il est à peu près l'heure de commencer, plus ou moins. Une ou deux minutes d'avance peut-être. Mais... Alors, je pense que vous avez tous pris à l'entrée de la salle un dossier de feuilles pour cette séance. Tout d'abord, comme il y a eu des problèmes mardi dernier, petite vérification pour le micro, est-ce que ça va? Bon, il n'y a pas de résonance comme l'autre jour. Très bien. Sinon, vous me le dites, hein, si je parle trop fort ou inversement insuffisamment fort, n'hésitez pas à me le dire. Donc, nous sommes dans la première partie de notre parcours. Et comme je l'annonçais l'autre jour, dans cette première partie où j'essaye de présenter les grandes évolutions de la réflexion sur Jésus-Christ depuis un siècle, en gros, après avoir parlé de la question du Jésus de l'histoire, la dernière fois, c'était le premier point de cette première partie, je vais essayer de présenter aujourd'hui les développements de la réflexion sur le Christ depuis un siècle, en gros, en Europe et aussi en dehors de l'Europe. La dernière fois, je me contentais de présenter les débats sur l'histoire de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire de Jésus, mais sans forcément engager la foi, la confession de foi chrétienne? Tandis qu'aujourd'hui, en parlant non plus de l'histoire de Jésus, mais de la réflexion sur Jésus-Christ, je vais essayer de rendre compte des principales évolutions qui ont marqué justement cette réflexion sur le Christ, la réflexion des théologiens chrétiens sur le Christ, en gros, depuis un siècle. Alors nous commençons par les développements de la christologie en Europe, donc c'est la deuxième section de cette première partie. Il est important de dire un petit mot d'abord sur ce que j'appelle l'héritage de la théologie du Verbe incarné, parce que c'est indispensable pour comprendre le renouveau qui s'est produit en Europe, en gros vers le milieu du XXe siècle, dans ce champ de la réflexion sur le Christ. Il faut avoir présent à l'esprit, en effet, que jusque vers le milieu du XXe siècle, on ne parlait pas de christologie. Si j'avais eu à donner un cours sur le sujet dans la première moitié du XXe siècle, ce qui risquait pas d'arriver, évidemment, et pour cause, eh bien, je n'aurais certainement pas intitulé ce cours « Cours de christologie », mais j'aurais intitulé ce cours « Sur le Verbe incarné ». Puis, comme à cette époque, j'aurais parlé latin, j'aurais intitulé ce cours « De Verbo Incarnato ». Voilà. Et ça, c'était une tradition qui remontait au Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge, enfin surtout depuis le XIIIe siècle, l'époque de la théologie scolastique, comme on disait, on traitait du Christ avant tout sous cet angle, le Verbe incarné. Je donne un tout petit exemple, mais c'est un exemple fameux entre tous. Le grand théologien du XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, a écrit un ouvrage célèbre qui s'appelle « La Somme théologique ». Et dans la Somme théologique, il y a plusieurs parties. La troisième partie, ce qu'on appelle la tertia pars, est consacrée au Christ et au sacrement. Or, saint Thomas d'Aquin commence dans cette troisième partie de son ouvrage, il commence par parler des questions touchant le Verbe incarné. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, on entend par là les questions sur la préexistence du Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu était auprès de Dieu, tourné vers Dieu. On entend par là également toutes les questions concernant l'incarnation du Verbe éternel de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Ces questions très nombreuses de saint Thomas d'Aquin sur le Verbe incarné, eh bien, elle nous parle du Verbe de Dieu préexistant éternellement auprès de Dieu, et elle nous parle aussi du Verbe de Dieu qui s'est fait chair, avec toutes les questions, comment comprendre que le Verbe de Dieu éternel soit devenu homme un jour du temps, etc. Voilà. Alors ensuite, saint Thomas d'Aquin ajoutait quand même, dans sa somme théologique, un certain nombre de questions sur les mystères de la vie de Jésus. C'est le mot qu'il employait, l'expression qu'il employait, les mystères de la vie du Christ. La nativité, l'adoration des mages, le baptême, les tentations au désert, etc., jusqu'à la passion, la résurrection et l'ascension. Mais justement, ça ne venait qu'en second lieu. Il y avait d'abord ce traité sur le Verbe incarné, et ensuite seulement, saint Thomas d'Aquin réfléchissait sur les mystères de la vie du Christ. Or, cette manière d'enseigner la question que nous appelons aujourd'hui la question christologique, eh bien, elle s'est perpétuée jusque vers le milieu du XXe siècle. Et il faut même dire que, bien souvent, on a retenu surtout les questions sur le Verbe de Dieu préexistant et le Verbe incarné, et dans l'enseignement courant de la théologie, on ne parlait plus beaucoup des mystères de la vie du Christ. Donc même à l'intérieur de cette réflexion de saint Thomas, on faisait des choix et on privilégiait tout ce qui concernait donc le Verbe de Dieu et son incarnation. Or, vers le milieu du XXe siècle, il y a eu tout d'un coup une prise de conscience, enfin tout d'un coup, il y a eu évidemment des signes précurseurs de cela. Enfin, c'est surtout au début des années 1950 qu'on a pris conscience de façon très forte de la nécessité de reprendre autrement la réflexion sur le Christ. Ce renouveau a été occasionné au sein de la théologie catholique par un anniversaire. Vous savez que les anniversaires, les commémorations, c'est souvent l'occasion de découvrir du neuf, finalement, à l'occasion d'un une commémoration, eh bien, on découvre qu'il y a des avancées à faire sur tel ou tel point. Eh bien, c'est ce qui s'est passé au début des années 1950. Très précisément, en 1951, on a célébré le 1500e anniversaire du Concile de Chalcédoine, un concile dont j'aurai l'occasion de reparler. C'est un concile très important pour la réflexion sur le Christ. C'est le grand concile du premier millénaire qui a promulgué une définition solennelle sur l'identité du Christ, le concile de Chalcédoine. C'est le concile notamment qui a parlé du Christ comme étant une personne en deux natures. Voilà. Bien donc, en 1951, il y a eu un anniversaire, on a célébré l'anniversaire de ce concile, et à cette occasion, il y a eu un article fameux du théologien allemand Karl Rahner, un article qui s'intitulait Chalcédoine, fin ou commencement? Point d'interrogation. Et dans cet article, Karl Rahner expliquait qu'une définition conciliaire, comme la définition christologique du concile de Chalcédoine, ne devait pas être simplement considérée comme une fin, comme un aboutissement, mais qu'elle devait être considérée en même temps, ou même surtout, comme un nouveau point de départ. Et donc, Karl Rahner a souligné très fortement, très vigoureusement dans ce texte, qu'il s'agissait de repenser autrement, de reprendre à nouveau frais la réflexion sur le Christ, en tenant compte, bien sûr, d'un certain nombre de caractéristiques du monde moderne et de la réflexion au sein de ce monde moderne. Alors, je vous signale que ce texte fameux de Karl Rahner a été traduit en français et il est accessible dans un volume qui s'appelle « Écrit théologique ». Je ne l'ai pas indiqué dans la bibliographie générale du cours, mais on a publié en langue française un certain nombre d'écrits théologiques de Karl Rahner. Il y a une dizaine de volumes qui sont parus. Et dans le premier de ces volumes, vous avez une longue étude de Karl Rahner qui porte le titre « Problèmes actuels de Christologie ». Eh bien, c'est la reprise de cet article fameux de Karl Rahner au début des années 1950. Donc, ça a été en quelque sorte le point de départ, l'anniversaire du concile de Chalcédoine. Et justement, dans la mouvance de cet anniversaire, on a considéré qu'il n'était plus possible de reprendre tel quel l'enseignement traditionnel sur le Verbe de Dieu, le Verbe éternel et le Verbe incarné, mais qu'il fallait adopter des points de vue pour une part nouveaux. Tout d'abord, en insistant beaucoup plus sur le lien entre la réflexion sur le Christ et la réflexion sur l'être humain en général. Et d'autre part, en partant non plus de la christologie ou de la théologie du Verbe de Dieu, mais en partant d'une considération de l'humanité concrète de Jésus-Christ. Je dis cela un peu vite, mais rassurez-vous, je vais le reprendre et je vais le développer. Donc, le premier point, le premier aspect de ce renouveau christologique vers le milieu du XXe siècle, le premier aspect a consisté à dire il faut retrouver un lien fondamental entre la réflexion sur le Christ et la réflexion sur l'être humain, ou pour le dire de façon technique, retrouver un lien fondamental entre la christologie et l'anthropologie. C'est le point petit b sur la feuille, christologie et anthropologie. On verra ensuite le second aspect, ce sera le point petit c. Alors, premier aspect donc de ce renouveau, retrouver un lien très fort entre la christologie et l'anthropologie. Alors c'est précisément Karl Rahner qui a le plus contribué à développer cette idée. Très exactement dans le texte que je viens d'évoquer, le texte des années 1950, publié dans le premier volume d'écrits théologiques. Karl Rahner, dans ce texte, explique que, bon, la formule va paraître assez dense, mais je la cite telle quelle, c'est le texte même de Rahner, il explique que la christologie peut être traitée comme une anthropologie qui se transcende elle-même, et l'anthropologie peut être traitée comme une christologie déficiente. La formule est dense, je la redis. La christologie peut être traitée comme une anthropologie qui se transcende elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la christologie, la réflexion sur le Christ, ne doit pas être séparée de la réflexion sur l'être humain en général. Mais que cette réflexion sur le Christ doit être comprise comme une réflexion sur l'être humain, donc comme une anthropologie, simplement une anthropologie qui se dépasse elle-même, qui se transcende elle-même, puisque avec le Christ, il ne s'agit pas simplement de n'importe quel être humain, mais il s'agit du Christ, qui est évidemment unique par rapport à tous les êtres humains. Voilà le sens de la formule de Karl Rahner. La christologie peut être traitée comme une anthropologie qui se transcende elle-même. Et inversement, poursuivait Rahner, l'anthropologie peut être traitée comme une christologie déficiente. C'est-à-dire que l'anthropologie, eh bien, d'une certaine manière, elle parle déjà un peu du Christ, mais de manière encore lacunaire. Parce qu'il ne suffit pas de parler de l'être humain en général pour parler du Christ qui est unique parmi tous les humains. Alors, quel est l'enjeu de cette insistance de Karl Rahner sur le lien entre christologie et anthropologie? Eh bien, Rahner nous dit, dans le même texte des années 1950, Rahner nous dit, si l'on raisonne dans ce sens, c'est-à-dire si l'on essaye de marquer beaucoup plus le lien entre la christologie et l'anthropologie, alors, dans ce cas, l'incarnation du Verbe de Dieu n'apparaîtrait plus comme un événement isolé du reste de l'histoire humaine. Mais l'incarnation apparaîtrait comme un événement historique qui prend sens au sein de toute une histoire humaine qui le précède. Voilà. Au fond, on situerait davantage la réflexion sur le Christ au sein d'une réflexion fondamentale sur l'être humain et sur son histoire. Pour illustrer de façon peut-être plus concrète et en tout cas de manière magnifique, cette pensée de Karl Rahner, je ne résiste pas à l'envie de vous lire un texte du, Théard, du père Théard de Chardin. Théard de Chardin, qui était non pas d'abord théologien, mais plutôt un savant, paléontologue, mais qui a eu de très belles pages sur le Christ, et qui était un aîné par rapport à Karl Rahner. Mais déjà, Théard de Chardin avait cette intuition que Rahner allait exprimer de façon beaucoup plus théorique, si vous voulez. Théard de Chardin, bon, c'est un texte qui a été publié dans le recueil Hymne de l'Univers, aux éditions du Seuil, en 1961. Théard de Chardin écrivait ceci. Les prodigieuses durées qui précèdent le premier Noël ne sont pas vides du Christ, mais pénétrées de son influx puissant. C'est l'agitation de sa conception qui remue les masses cosmiques et dirige les premiers courants de la biosphère. C'est la préparation de son enfantement qui accélère les progrès de l'instinct et l'éclosion de la pensée sur Terre. Ne nous scandalisons plus sottement des attentes interminables que nous a imposées le Messie. Il ne fallait rien moins que les labeurs effrayants et anonymes de l'homme primitif et la longue beauté égyptienne et l'attente inquiète d'Israël et le parfum lentement distillé des mystiques orientales et la sagesse cent fois raffinée des Grecs, il ne fallait rien moins que tout cela pour que sur la tige de Jessé et de l'humanité, la fleur pût éclore. Toutes ces préparations étaient cosmiquement, biologiquement nécessaires pour que le Christ prît pied sur la scène humaine, et tout ce travail était mû par l'éveil actif et créateur de son âme, en tant que cette âme humaine était élue pour animer l'univers. Quand le Christ apparut entre les bras de Marie, il venait de soulever le monde. Voilà, très beau texte de Théard. De cette manière, Karl Rahner s'inscrit dans la même ligne, mais il dit les choses de façon plus théorique, en quelque sorte. Tout son effort, c'est de dire, ne spéculons plus sur le Verbe de Dieu en soi ou le Verbe de Dieu incarné d'une manière complètement abstraite, mais ayons le souci de penser, de comprendre l'événement du Christ au sein d'une histoire multiséculaire qui le précède. Ce qui ne veut pas dire que le Christ ne soit pas unique au sein de cette histoire. Mais puisque nous reconnaissons qu'il est vraiment homme, alors nous devons essayer de penser l'incarnation dans cette histoire humaine comme un événement nouveau, certes, mais qui jaillit au sein de toute une histoire qui le précède. Voilà c'est cette vision fondamentale qui est à la base, au fond, de la réflexion de Théard de Chardin, mais aussi de Karl Rahner et d'autres théologiens de la même génération que celle de Karl Rahner. Voilà. Si vous voulez, ça s'oppose à une idée qu'on a pu parfois, non pas formuler comme telle, mais qu'on a pu laisser entendre. Quelquefois, on a pu raisonner dans le passé comme si, tout d'un coup, il y aurait eu l'incarnation, la venue de Dieu dans l'histoire, un peu comme une sorte, comme l'effet d'un caprice divin, en quelque sorte. Tout d'un coup, Dieu aurait décidé d'envoyer son Fils. Eh bien, c'est contre cela que réagissent justement des hommes comme Théard de Chardin ou Karl Rahner, qui disent, bien sûr, il y a une nouveauté de l'incarnation, mais elle prend sens au sein d'un monde qui l'a préparé. Donc ça, c'est le premier tournant, si vous voulez, premier aspect, en tout cas, de ce renouveau de la réflexion sur le Christ vers le milieu du XXe siècle, l'effort pour marquer le lien intime entre la réflexion sur le Christ et la réflexion sur l'être humain, et donc l'effort, par là même, pour situer l'événement de l'incarnation au sein d'une histoire qui le précède. Le deuxième aspect de ce renouveau de la réflexion sur le Christ vers le milieu des années 1950-1960 environ, c'est la préoccupation formulée par un certain nombre de théologiens européens, la préoccupation de partir non plus d'en haut, mais de partir d'en bas. C'est le point C que j'apporte maintenant. On veut désormais passer d'une christologie descendante, ou si vous voulez, d'une christologie d'en haut, à une christologie dite d'en bas, christologie ascendante. Alors, je m'explique un tout petit peu. J'expliquais que depuis le XIIIe siècle jusque vers le milieu du XXe siècle, quand on réfléchissait sur le Christ, on partait essentiellement de la considération du Verbe de Dieu dans son éternité. Si vous voulez, le début du prologue de l'Évangile de Jean, au commencement, était le Verbe. Et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Et puis de là, en suivant d'ailleurs le texte du prologue johannique, on en venait au verset 14 du chapitre 1er de l'Évangile de Jean, et le Verbe s'est fait chair. Donc après avoir réfléchi sur le Verbe éternel auprès de Dieu, on réfléchissait sur l'incarnation de Dieu parmi les hommes. Il s'est fait chair. C'était un schème descendant, pour recourir à une image spatiale. Hein. On partait d'en haut, l'éternité du Verbe, et on réfléchissait sur la descente du Verbe de Dieu parmi les hommes. Or, un bon nombre de théologiens catholiques, à partir du milieu du XXe siècle, expliquent qu'il n'est plus possible de prendre ce point de départ. Mais qu'il faut partir d'en bas. C'est-à-dire, il faut partir de ce que nous révèlent les évangiles avant tout, c'est-à-dire l'humanité concrète de Jésus. Alors, ils font remarquer que, même si le Nouveau Testament comporte des affirmations comme celle du prologue de l'Évangile de Jean, le Verbe était auprès de Dieu, ces affirmations ne sont pas venues en premier lieu. Les pêcheurs du lac de Galilée qui, un jour, ont entendu Jésus leur dire « Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », ces hommes-là n'ont pas tout de suite compris que le Christ n'était autre que le Verbe de Dieu. Ça va de soi. Il a fallu tout un itinéraire pour que les premiers chrétiens, chrétiens de la première génération, en viennent à reconnaître que celui qui s'était manifesté au bord du lac de Tibériade n'était autre que le Fils de Dieu, que celui qui, de toute éternité, était le Fils de Dieu. Et donc, ces théologiens, à partir du milieu du XXe siècle, en gros, nous disent il faut repartir de ce lieu premier où le Christ s'est manifesté, c'est-à-dire bien la révélation de son humanité concrète en Palestine, il y avait à l'époque presque 2000 ans. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a commencé à développer le langage christologie. Jusque-là, on parlait surtout de la théologie du Verbe incarné. Mais à partir de ce moment-là, milieu du XXe siècle, on s'est mis à parler davantage de christologie. Parce que justement, l'enseignement ou la réflexion sur Jésus-Christ ne pouvait plus partir de la considération du Verbe de Dieu dans son éternité, mais devait vraiment partir de Jésus-Christ tel qu'il se donne à voir et à connaître par les évangiles. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui a rendu possible, hein, qu'est-ce qui a favorisé ce tournant, cette volonté de passer d'une théologie d'en haut à une christologie d'en bas, c'est-à-dire une christologie partant de la considération de l'humanité concrète de Jésus. Ben, il y a un certain nombre d'influences qui ont joué. Certainement, l'évolution de l'exégèse. J'ai beaucoup parlé mardi dernier de ce qui s'était passé, notamment dans le cadre du protestantisme. Le souci de découvrir ce qu'on pouvait honnêtement reconstituer de l'histoire de Jésus. Alors, évidemment, les théologiens, y compris les théologiens catholiques, et même d'abord eux finalement, ont eu à cœur d'en tirer bénéfice au service de leur propre réflexion théologique. Il y a autre chose aussi qui a contribué à ce tournant vers le milieu du XXe siècle, c'est, du point de vue philosophique, le développement de ce qu'on a appelé l'existentialisme. L'existentialisme, qui pouvait être un existentialisme athée, mais qui pouvait être aussi un existentialisme croyant, chrétien. Je pense à des auteurs comme Gabriel Marcel, par exemple. Hein. Du côté protestant, on peut penser à Tillich aussi. Hein. Ce sont des philosophes ou des théologiens dans cette ligne existentialiste qui insistaient beaucoup sur l'existence concrète de l'être humain. Et donc ça a incité les théologiens aussi à se dire, mais à propos de Jésus-Christ, avant de trop parler de son éternité, de sa préexistence, essayons de réfléchir sur son existence concrète, telle qu'elle s'est révélée à nous à travers les évangiles. Un autre élément, certainement, qui a contribué à cette prise de conscience, c'est l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale. L'épreuve de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier l'attention qui a été portée à ce moment-là au peuple juif, pendant les guerres mondiales ou juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le drame, la tragédie de l'Holocauste a rendu davantage attentif à l'insertion de Jésus dans ce peuple juif. Et donc ça impliquait que l'on en tienne compte dans la christologie elle-même. Voilà. Bon, certainement d'autres éléments ont joué. Toujours est-il que le phénomène a été assez massif. Alors je vous ai donné sur la feuille un extrait un petit peu long d'un ouvrage d'un théologien protestant, Wolfhart Pannenberg, qui est un vigoureux défenseur de cette nouvelle approche de la christologie d'en bas. Et c'est intéressant de voir en quels termes il en parle. Donc il critique la réflexion théologique traditionnelle, qui était une théologie d'en haut, et il dit ceci. « Tous ces essais d'une christologie d'en haut ont ce trait commun qu'on y part déjà de la doctrine de la Trinité et qu'on y pose la question de savoir comment la deuxième personne de la Trinité, le Logos, a pris une nature humaine. » J'aime descendant. Et il dit, trois raisons nous interdisent de suivre cette méthode. Premièrement, une christologie d'en haut présuppose déjà la divinité de Jésus. Voilà. Vous voyez ce qu'il veut dire? Si vous partez du Verbe de Dieu, vous êtes déjà conscient de ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Or, Pannenberg nous dit, en réalité, il faut commencer par accréditer cette foi en Jésus comme Fils de Dieu. Et ensuite seulement, on pourra réfléchir sur sa préexistence auprès de Dieu. Donc, une christologie d'en haut présuppose déjà la divinité de Jésus. Or, la tâche principale de la christologie est justement d'exposer les raisons qui amènent à reconnaître la divinité de Jésus. Au lieu de présupposer sa divinité, il faut d'abord rechercher dans la manifestation historique de Jésus comment elle conduit à la reconnaissance de sa divinité. Il faut partir d'en bas. C'est une métaphore spatiale, mais on voit ce qu'elle veut dire. Deuxièmement, une christologie qui part de la divinité du Logos et qui ne voit de problème que dans l'union de Dieu et de l'homme en Jésus, parvient difficilement à reconnaître l'importance capitale qui s'attache au trait particulier de l'homme historique réel, Jésus de Nazareth. Les rapports multiples de Jésus avec le judaïsme contemporain, dont la connaissance est essentielle pour comprendre la carrière et le message de Jésus, doivent paraître d'importance secondaire à une telle christologie, même si elle est capable de parler des fonctions de Jésus comme de son abaissement et de son exaltation. De fait, si l'on peut déjà savoir par avance que Jésus-Christ est fils de Dieu, ses rapports avec le judaïsme contemporain ne sont pas, pour les questions christologiques fondamentales, de tel intérêt. Le seul point important reste alors la participation du Logos à tout ce qui est humain en général, parce qu'en dépend réciproquement, par Jésus, notre participation d'homme à la divinité. La singularité de Jésus, par contre, ne peut avoir ici d'importance décisive, exception faite de sa mort comme rançon pour les péchés. Bon, ce deuxième argument, c'est assez facile à comprendre. Bon, si vous partez d'en haut, vous parlez du Verbe de Dieu en général, mais vous ne dites rien de ce qui fait la singularité concrète de Jésus de Nazareth, comme juif, etc. Des différentes caractéristiques, conditions aussi culturelles de l'existence de Jésus. Troisième argument, enfin, la dernière raison pour laquelle une christologie d'en haut nous reste interdite et qu'on devrait se placer au point de vue de Dieu même pour suivre le chemin du Fils de Dieu dans le monde. Or, en fait, nous pensons toujours à partir d'une situation humaine historiquement déterminée. Nous ne pouvons pas en sauter simplement les frontières. Notre point de départ doit donc être l'interrogation sur l'homme Jésus. C'est seulement par cette voie qu'on peut s'enquérir de sa divinité. Comment pourrait-on concevoir le Logos divin, la deuxième personne de la Trinité, en faisant abstraction de l'incarnation et donc de l'homme Jésus ? Cela échappe complètement à notre pensée. Voilà. Donc, si vous voulez, du point de vue christologique, hein, ce tournant qui s'est passé aux alentours des années 1950-1960, c'était un tournant qui mettait en cause, finalement, la manière de faire la réflexion sur le Christ, la manière de pratiquer la réflexion sur le Christ, au moins telle qu'elle s'était développée depuis le XIIIe siècle. Donc c'était quand même un tournant majeur. Et on constate que, en effet, beaucoup de théologiens, à la fois catholiques et protestants, se sont engagés dans cette voie d'une christologie d'en bas. Alors je vais énumérer quelques noms. Donc bien sûr, Wolfhard Pannenberg, dans son ouvrage « Esquisse d'une christologie », qui date des années 1960, il a été traduit en 1971 en langue française, je vous ai donné la référence. Du côté protestant, il y a un autre théologien qui s'est aussi engagé dans cette ligne d'une christologie d'en bas, c'est Jürgen Moltmann. Wolfhard Pannenberg est un théologien qui enseignait, il est à la retraite maintenant, il enseignait à Munich, et Jürgen Moltmann est un théologien protestant lui aussi, qui enseignait à Tübingen. Il est également à la retraite aujourd'hui. Voilà, donc ce sont les plus importants, mais il y en a eu d'autres. Du côté catholique aussi, un certain nombre de théologiens se sont pleinement engagés dans cette voie d'une christologie ascendante, une christologie dite d'en bas, c'est-à-dire partant d'une réflexion sur la vie de Jésus, sur son humanité concrète, plutôt que d'une réflexion sur le Verbe éternel de Dieu. Alors j'énumère ici encore quelques noms. Karl Rahner, bien sûr. Karl Rahner, hein, qui est vraiment représentant typique de ce courant, hein, de cette tendance théologique, mais également d'autres théologiens catholiques. En France, il y a eu par exemple Christian Ducoq, qui était un théologien dominicain, et il a publié en 1968 deux gros ouvrages sur le Christ et qui sont pleinement dans la ligne de ce qu'on appelle la christologie d'en bas. Autre exemple de théologien catholique qui s'est également pleinement engagé dans cette ligne, christologie d'en bas, eh bien, Hans Küng, en Allemagne, en Suisse, hein, il est suisse, Küng, j'attire votre attention sur le fait que Hans Küng a eu quelques difficultés. C'est-à-dire, il est allé tellement loin dans cette ligne d'une christologie d'en bas que en fait, dans son ouvrage « Être chrétien », un ouvrage qui est paru dans les années 1970, Hans Küng, en réalité, ne prenait appui pour l'essentiel que sur les synoptiques. Il parlait très peu de l'évangile de Jean. Donc, c'est toujours le problème. Hein. Quand on s'engage dans un nouveau courant, il faut en faire attention à ne pas aller trop loin, parce que sinon on devient unilatéral. C'est vrai que les évangiles témoignent de l'histoire concrète de Jésus, mais malgré tout, dans le Nouveau Testament, il y a aussi l'évangile de Jean, et l'évangile de Jean parle bien du Verbe éternel de Dieu. Donc on a reproché à Hans Küng d'aller trop loin dans ce sens d'une christologie d'en bas, ou du moins d'être un peu unilatéral. Alors, il y a un autre théologien catholique aussi qui s'est engagé dans ce même courant, c'est Eduard Skibbeks, théologien flamand, et on pourrait en citer d'autres. Alors, je ne veux pas dire par là que ce courant christologique d'en bas ait été absolument adopté et suivi par tous les théologiens européens. Il y a en particulier une exception fameuse, c'est celle de Hans Urson Balthasar. Bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire au moins une partie de son ouvrage « La gloire et la croix ». C'est un ouvrage qui est absolument inclassable. La pensée de Urson Balthasar, dans cet ouvrage, c'est une pensée qui veut prendre en compte le transcendantal du beau, la beauté. Et il réfléchit sur la figure du Christ. Il réhabilite, au fond, une approche esthétique de la révélation du Christ. Et il nous dit, il explique que le Christ est la figure centrale de la révélation, mais la figure étant prise au sens esthétique du terme, c'est-à-dire que tous les rapports, toutes les proportions sont absolument en place. Il y a un équilibre complet de la figure du Christ, y compris lorsque la figure du Christ prend la forme paradoxale du serviteur souffrant. Enfin, il y a toute une relecture de la christologie sous l'angle de l'esthétique. Et il est évident qu'une approche comme celle-là, qui est très très originale, est absolument inclassable. On ne peut pas dire que ce soit une christologie d'en haut ni une christologie d'en bas. Enfin, c'est vraiment d'un autre ordre. Mais en dehors de cette exception, on peut dire que, en gros, la plupart des grands ouvrages de christologie dans les années 1960, 70 et 80 se sont situés dans la mouvance de ce renouveau. Et donc, elles ont voulu développer ce qu'on appelle une christologie d'en bas. Alors, depuis lors, j'aborde ici le point petit d, évolution récente de la christologie européenne. Depuis lors, il y a eu quand même des évolutions, donc il y a eu de nouveau. On a constaté, je ne parle ici que de l'Europe toujours, on a constaté à partir des années 80 un certain essoufflement de la production théologique à propos du Christ. Il y a eu d'autres ouvrages qui ont été publiés sur d'autres questions, mais on a remarqué que, alors qu'il y avait eu beaucoup d'ouvrages de christologie dans les années 60-70, eh bien, ça a tendu à se raréfier dans les années 80, au profit d'un déplacement vers d'autres questions, en particulier la question de Dieu, la question trinitaire. C'est assez intéressant de voir ça dans le cas de plusieurs théologiens qui avaient publié un ouvrage de christologie dans les années 60 ou 70 et qui, dans les années 80 ou 90, ont publié plutôt un ouvrage sur la Trinité. Par exemple, Hans Küng lui-même. Il avait écrit un ouvrage de christologie, Être chrétien, et quelques années plus tard, eh bien, il passe plutôt à la théologie trinitaire, avec son ouvrage Dieu existe-t-il ? On peut prendre aussi l'exemple de Walter Kasper, théologien catholique, qui avait écrit un ouvrage important de christologie dans les années 70, Jésus le Christ, et qui, quelques années après, publie un ouvrage de théologie trinitaire, Le Dieu des chrétiens. Par ailleurs, on constate aussi qu'à partir des années 1980, sont arrivées un certain nombre de questions que les théologiens que je citais précédemment n'avaient pas tellement prises en compte. Par exemple, la confrontation avec le judaïsme et l'islam, qui n'était quand même pas très très présente dans ces ouvrages de Skilbeck ou de Christian Ducoq, etc. Ou encore, plus récemment, le problème écologique. Bon, donc il y a un certain nombre de questions qui semblaient moins prises en compte par les christologies des années 60 ou 70. Et puis surtout, j'anticipe sur ce que je dirai bientôt, la théologie européenne, la réflexion théologique des théologiens européens sur le Christ, s'est trouvée quelque peu ébranlée à partir des années 80 par l'émergence et le développement de nouvelles christologies qui se sont développées en dehors de l'Europe et qui, par la suite, d'ailleurs, ont commencé à refluer sur la théologie européenne elle-même. Depuis quelques années, cependant, on constate à nouveau une certaine reprise des publications théologiques sur le Christ en Europe. Et j'en donne deux indices majeurs. Un premier indice, ce sont les publications de Joseph Moin. Joseph Moin, donc, qui était professeur ici même, dans cette maison, et qui a publié en 1993 un livre de christologie très important qui s'appelle « L'homme qui venait de Dieu ». L'homme qui venait de Dieu. Alors, le titre de ce livre est tout à fait révélateur. Joseph Moin se situe vraiment dans la ligne des christologies d'en bas. Le titre, c'est « L'homme qui venait de Dieu ». Donc, il part de la considération de l'homme Jésus pour en venir à montrer comment cet homme Jésus vient de Dieu, comment il est lui-même le Fils de Dieu. On est tout à fait dans la ligne des christologies d'en bas. Et puis, alors j'ajoute même que quelques années après, Joseph Moin a publié aussi trois volumes sous le titre « Dieu qui vient à l'homme ». Il avait publié « L'homme qui venait de Dieu », ensuite il publie « Dieu qui vient à l'homme ». Alors on pourrait dire, est-ce que tout d'un coup il revient à une christologie d'en haut ? Non, pas tout à fait. Sa démarche, c'est plutôt de dire, bon, maintenant que nous sommes partis justement de l'homme Jésus, et que nous avons pu remonter à la considération du Verbe de Dieu dans son éternité, il nous faut maintenant rendre compte du mouvement inverse, c'est-à-dire comment, une fois atteinte, font cette préexistence du Verbe de Dieu, eh bien, comment il est possible de rendre compte de ce mouvement par lequel Dieu lui-même est venu prendre chair. Mais justement, c'est bien après. Donc ça ne contredit pas le mouvement général de la christologie d'en bas. Il faut bien qu'à un moment ou l'autre, une christologie d'en bas puisse arriver en haut, tout de même. Parce que, encore une fois, c'est aussi présent dans le Nouveau Testament. Le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe est Dieu. Dans cette affaire-là, si vous voulez, tout est une question de point de départ. Les bons théologiens ne mettent pas en cause qu'il faille aussi développer une christologie d'en haut. Mais ils disent simplement qu'il ne faut pas commencer par là. Voilà. Alors, il y a des théologiens qui aussi développent une christologie d'en bas, mais qui s'arrêtent en chemin, qui vont pas tout à fait au bout de leur démarche, et qui ne rendent pas suffisamment compte des affirmations de ce qu'on appelle la christologie haute. Alors, dans ce cas-là, il y a un problème. Pour une part, c'est le problème de Hans Küng, dans son livre « Être chrétien ». Mais ceux qui, comme Raner ou Joseph Moin, sont pleinement conscients, si vous voulez, de ce que doit être la tâche d'une christologie aussi complète que possible, eh bien, ils ne mettent pas en cause le fait qu'il faille en venir, un moment ou l'autre, à rendre compte de la divinité du Christ et de son éternité, l'éternité du Verbe de Dieu auprès de Dieu. Simplement, il ne commence pas par là. Il commence par parler de l'homme Jésus, l'homme qui venait de Dieu. Alors, il y a une autre publication majeure dans le champ de la christologie depuis en Europe, depuis une dizaine d'années. C'est l'œuvre de Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Il faut considérer cet ouvrage Jésus de Nazareth en trois volumes. Il faut le considérer comme une publication de la théologie européenne, parce que Benoît XVI justement a tenu à ce que son nom Joseph Ratzinger figure sur la couverture, et il dit bien dans l'introduction de son livre que par son ouvrage de christologie, même s'il l'a rédigé alors qu'il était pape, il n'entend pas engager le magistère de l'Église. Il écrit ce livre en tant que théologien. C'est fabuleux de penser qu'il ait pu avoir le temps, prendre le temps d'écrire ce livre alors qu'il était pape en même temps. Enfin, je pense que si probablement ça a dû l'aider. Il avait besoin aussi de maintenir ce travail théologique pour bien assurer sa charge. Je pense aussi que ça a dû jouer. Et puis, il faut pas oublier que Joseph Ratzinger avait quand même longtemps enseigné la théologie et que donc il avait tout un bagage qui lui permettait de rassembler ses réflexions et de les mettre par écrit. Alors, cet ouvrage, Jésus de Nazareth en 3 volumes. Les publications se sont étalées sur quelques années. Le premier volume est paru en 2007. Ce sont des publications qui, elles, disons, l'ensemble de l'ouvrage, lui, disons, ne peut pas être présenté comme un exemple type de ce qu'on appelle la christologie d'en bas. Disons que c'est à la fois d'en bas et d'en haut. Voilà. Parce que le souci de Joseph Ratzinger, c'est de présenter... Certes, il entend vraiment s'appuyer sur les recherches exégétiques, sur l'histoire de Jésus. Et il y a de très très belles pages dans son ouvrage sur ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'humanité de Jésus, de son histoire, etc. Mais il avoue en même temps, dès l'introduction de son premier tome, il avoue que pour lui, ce qui est déterminant, c'est en même temps de lire et de comprendre cette histoire concrète de Jésus à la lumière de la confession de foi christologique. Donc, dès le point de départ, Joseph Ratzinger engage la confession de foi de l'Église à propos du Christ. Voilà. Alors, naturellement, il y a eu d'autres ouvrages. Je pense en particulier à ceux du père Bernard Cesboué. Mais je dirais que pour l'Europe, depuis 10-15 ans, enfin, certainement, les publications sont moins nombreuses dans le champ de la christologie. Elles sont moins nombreuses qu'elles ne l'ont été il y a une trentaine d'années, hein, pour les raisons que j'ai dites, malgré ces quelques exceptions que sont les livres de Joseph Moin ou la trilogie de Benoît XVI, Joseph Ratzinger. Alors, je voudrais terminer cette section sur les évolutions de la christologie en Europe. Je voudrais la terminer en formulant 2 points d'attention. Outre les questions concernant les débats sur le Jésus historique dont on a parlé mardi dernier. Premier point d'attention, il est important d'être conscient de l'impact des problématiques, des réflexions philosophiques sur la christologie. On ne pense pas toujours à interroger la christologie européenne sous cet angle, mais quand on regarde les publications depuis 3 ou 4 décennies, eh bien on constate qu'il y en a un certain nombre qui portent directement la marque d'une influence philosophique. Parce que les philosophes de l'époque moderne ou contemporaine, comme Hegel, par exemple, parmi d'autres, ont beaucoup parlé de Christ. Et donc, il y a un certain nombre de théologiens qui s'inspirent directement de leurs réflexions pour approfondir une réflexion proprement christologique. Alors on pourrait citer à cet égard, j'ai fait référence déjà à la philosophie de Hegel, certainement les ouvrages de Joseph Moin, « L'homme qui venait de Dieu, Dieu qui vient à l'homme », ce sont des ouvrages de théologie, mais ils sont très marqués par la réflexion de Hegel sur le Christ, Dieu qui s'est communiqué lui-même, qui s'est médiatisé à travers l'histoire. On pourrait se demander aussi s'il y a eu des influences des philosophies du tout autre sur la christologie. Ça, c'est un point plus délicat. Les philosophies du tout autre, j'entends par là des philosophies comme celle de Lévinas, Emmanuel Lévinas, qui insiste beaucoup sur la transcendance radicale de Dieu, la transcendance radicale du tout autre. Alors, oui, pour une part, ces courants philosophiques qui insistent beaucoup sur la transcendance de l'absolu ont eu une certaine influence sur la christologie, mais pour une part seulement, parce que le problème, c'est que si on va trop loin dans le sens, si on insiste uniquement sur la radicale transcendance du tout autre, on a du mal à rendre compte de l'incarnation. Et je le signale au passage, il y a un philosophe français qui s'appelle Georges Morel, qui a développé toute une réflexion sur le tout autre. Mais cette réflexion sur le tout autre a débouché finalement sur un volume dans lequel il disait que l'incarnation du Christ était impensable. De fait, c'est assez logique. Alors, à la fois, je disais, il y a quand même une influence, une certaine influence des philosophies du tout autre sur la christologie, dans la mesure où ces philosophies invitent les théologiens à montrer comment à travers l'événement même du Christ, se trouve dit quelque chose du tout autre. Voilà. Mais l'influence s'arrête là. Parce que si on va trop loin, ou si on est unilatéral dans cette réflexion sur la transcendance du tout autre, on risque à la limite de ne plus pouvoir rendre compte de l'incarnation. Peut-être le phénomène qui, sur ce plan, est le plus intéressant à relever, c'est l'impact d'un troisième courant philosophique, le courant phénoménologique. Il faudrait en parler au pluriel, hein, les courants phénoménologiques. Bon, la phénoménologie, vous le savez sans doute, hein, c'est un mot très général, mais qui qualifie un certain nombre de pensées philosophiques qui se sont développées depuis Husserl et Heidegger, hein, pour l'essentiel. Mais les courants phénoménologiques sont très très divers. Il y a des phénoménologies qui sont développées par des auteurs incroyants. Il y a aussi des réflexions phénoménologiques qui sont développées par des auteurs chrétiens. L'un des plus connus actuellement en France, c'est Jean-Luc Marion. Je n'ai pas à développer ici pour elle-même, hein, le sens de ces courants phénoménologiques. Hein. Disons, pour l'essentiel, ce sont des courants qui privilégient la réflexion sur ce qui se manifeste, hein, le phénomène, sur ce qui se donne à voir et à connaître. Voilà. Or, précisément, un certain nombre de théologiens ou de philosophes intéressés par la théologie abordent la question du Christ sous cet angle. Et au fond, ils invitent à partir du quelque sorte du phénomène du Christ, la manifestation du Christ, et ils réfléchissent à partir de là. Et c'est intéressant de voir que, actuellement, c'est souvent par le biais de la phénoménologie que l'on perçoit le plus l'impact de la réflexion philosophique sur la christologie. Il y a un exemple fameux de cela, c'est l'exemple d'un philosophe qui s'appelle Michel Henry. Qui en fait s'est converti, hein. Au départ il n'était pas chrétien, mais c'est un philosophe dont la réflexion se situait pleinement dans la tradition phénoménologique, et vers la fin de sa vie, il a publié plusieurs ouvrages qui traitent explicitement du Christ. Ce ne sont pas des ouvrages de théologie, ce sont des ouvrages d'un philosophe, mais d'un philosophe qui, à partir de sa réflexion phénoménologique, justement, approfondit une réflexion sur le phénomène, l'apparition, la manifestation de Dieu parmi les hommes. L'un de ses ouvrages, d'ailleurs, porte un titre tout à fait significatif, puisqu'il s'appelle « Incarnation ». Hein, voilà, un philosophe qui a publié un ouvrage intitulé « Incarnation ». Donc ça, c'est le premier point d'attention que je voulais souligner. Hein, c'est cet impact des problématiques philosophiques sur la réflexion christologique en Europe. Le second point d'attention que je voulais souligner, eh bien, c'est que aujourd'hui, en 2014, il est sans doute important de prendre une certaine distance par rapport au clivage christologie d'en bas, christologie d'en haut. On comprend, bien sûr, que dans les années 1950-1960, ce clivage et eu une fonction tout à fait capitale. Il s'agissait, pour des théologiens comme Karl Rahner ou Pannenberg, il s'agissait, au fond, de prendre une position critique par rapport à une théologie descendante qui ne leur semblait plus suffisamment adaptée aux requêtes de l'homme moderne. Bon. Mais aujourd'hui, avec le recul, quand même, 60 ans après environ, nous sommes redevenu davantage conscient du fait qu'il y aurait quelque chose d'unilatéral à privilégier seulement des christologies dites d'en bas. Mais qu'il faut plutôt essayer, en christologie aujourd'hui, de rendre compte de la complexité, justement, de la réflexion néo-testamentaire sur le Christ. Parce que dans le Nouveau Testament, nous avons bien, en effet, le témoignage de ces efforts pour rendre compte de l'identité de Jésus-Christ à partir de la révélation de son humanité concrète, Mais nous avons aussi, dans ce même Nouveau Testament, un certain nombre de formulations qui relèvent de ce qu'on peut appeler une christologie haute. Pas seulement le prologue de l'évangile de Jean, mais aussi d'autres passages du Nouveau Testament, comme par exemple le début de l'Épître aux Hébreux. Après avoir parlé de bien des manières à travers les prophètes, etc., Dieu s'est manifesté un jour du temps. C'est bien théologie d'en haut, si on veut. Donc, avec le recul, il faut être conscient du fait que l'enjeu d'une réflexion christologique, ce n'est pas d'abord de privilégier la christologie d'en haut par rapport à celle d'en bas, ou d'en bas par rapport à celle d'en haut, mais c'est un petit peu de dépasser ce dilemme. De dépasser ce dilemme pour articuler de façon aussi juste que possible la reconnaissance de l'humanité concrète de Jésus de Nazareth et la confession de sa divinité. Voilà. Est-ce que sur ces évolutions de la christologie européenne depuis un siècle, environ, ou trois quarts de siècle, est-ce qu'il y aurait une autre question ou précision avant qu'on fasse la pause ? Oui ? Alors, c'est le petit texte que j'ai cité se trouve dans le volume intitulé « Hymne de l'univers ». Hymne de l'univers. Bien, si vous voulez, peut-être le plus simple, ce serait que je vous en fasse une photocopie pour la prochaine fois. Non, je suis toujours partagé parce que d'un côté, je ne veux pas vous inonder de textes, mais de l'autre, si ce texte vous intéresse, je suis prêt à vous donner une photocopie. D'accord. Ça, j'indiquerai par là même la référence. Tout autre, si vous voulez, tout autre, c'est une expression assez usuelle dans la philosophie contemporaine, surtout chez des auteurs comme Lévinas, pour mettre en évidence la radicale différence entre Dieu et l'homme. Voilà. Bon, Dieu est tout autre, ça veut dire Dieu est infiniment au-delà de l'homme. Bon, c'est pas complètement nouveau, parce que il y a longtemps que la théologie chrétienne a reconnu la transcendance de Dieu. Saint Augustin et bien d'autres après lui disaient déjà Dieu est au-delà de tout. Il y a une hymne célèbre qui est attribuée à Grégoire de Nazianze qui dit ô toi l'au-delà de tout, toi que nul homme ne peut nommer, etc. Mais si vous voulez, la philosophie contemporaine, surtout chez des auteurs comme Lévinas, a forger, font ce concept du tout autre, pour rendre compte de cette différence incommensurable entre Dieu et l'homme. Mais, comme je disais tout à l'heure, il faut être conscient du fait que lorsque ce thème est développé par un philosophe juif comme Lévinas, eh bien, il a une connotation qui n'est pas immédiatement recevable par des lecteurs chrétiens. Parce que, chez Lévinas, cette insistance sur le tout autre s'accompagne de l'idée suivant laquelle il n'y a pas de médiation possible, et donc il n'y a pas d'incarnation possible de ce tout autre. Il est tellement autre qu'il ne peut pas devenir homme. Tandis que l'affirmation christologique de la tradition chrétienne consiste à dire que bien que Dieu soit tout autre, il peut devenir homme, il est devenu homme en Jésus-Christ. Ou plus exactement, moi j'aime bien dire, il est tellement tout autre qu'il va jusqu'à surpasser sa propre différence pour devenir l'un de nous. Mais ça, c'est ma formule.
Une question, vous avez parlé notamment à propos de Michel Henry, vous avez cité un ouvrage d'incarnation, c'est un philosophe chrétien, mais un ouvrage de philosophie qui n'est pas un ouvrage de théologie. Comment différencier ? Qu'est-ce qui différencie ?
Non. Alors moi je dirais que c'est à cause du point de départ, si vous voulez. Le philosophe réfléchit d'abord à partir de l'expérience humaine, des catégories qu'il développe à propos de cette expérience humaine, quitte à dire qu'à un certain moment, justement, cela donne un langage adéquat pour rendre compte de la foi chrétienne. tandis que le théologien, d'emblée, part de ce qui est révélé à travers l'Écriture sainte et à travers la foi de l'Église. C'est le point de départ qui n'est pas le même. Mais des rencontres sont tout à fait possibles et souhaitables, en plus. Ce qui fait que, souvent, chez un théologien comme Ranner, vous pouvez tomber sur deux ou trois pages qui sont vraiment philosophiques. Et inversement, chez un philosophe comme Michel Henry, tout d'un coup, vous pouvez tomber sur deux ou trois pages qui sont d'allure théologique. D'ailleurs, la distinction entre philosophie et théologie est une distinction relativement récente. Pour les anciens, elle ne se formulait pas de la même manière. C'est surtout au Moyen-Âge qu'on a cristallisé cette différenciation entre philosophie et théologie. Alors, je crois que la distinction est légitime à cause de la différence des points de départ. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des recoupements ou des rencontres possibles. Oui ? Oui, vous avez raison. Bon, je n'ai pas parlé du concile comme tel. C'est vrai que le concile a peut-être davantage parlé de l'Église, l'Lumen Gentium, l'Église dans le monde de son temps, Gaudium et Spes. Mais en même temps, vous avez des passages sur le Christ très importants dans le concile. Or, certainement, j'aurai l'occasion d'en parler. Enfin, le Christ tel qu'il est présenté, par exemple, au début de Dei Verbum, c'est celui qui se communique à travers ses paroles et ses actes. Donc là, on est bien tout à fait en cohérence avec ce mouvement des christologies d'en bas. Le prologue de Dei Verbum est tout à fait significatif. Il fait vraiment droit à la révélation concrète de Jésus-Christ à travers ses paroles et ses actes. Donc certainement, j'aurai l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Il y a quelque chose qui est tout à fait cohérent, en tout cas avec ce mouvement global de la réflexion théologique dans les années 50-60, une attention plus grande à l'humain. J'ai fait allusion à l'expérience de la Seconde Guerre mondiale tout à l'heure. Je mettais l'accent surtout sur le drame du peuple juif. Mais il ne faut pas oublier aussi que la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même à cette occasion que des hommes et des femmes ont fait l'expérience de se retrouver ensemble dans des camps de concentration ou prisonniers, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs croyances ou leurs incroyances. Voilà. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas se trouvaient dans la même situation. Et à travers cela, il y a eu une expérience inouïe d'humanité partagée qui a été faite. Et ça fait partie, à mon avis, aussi de ce qui a contribué à susciter cette prise de conscience parmi les théologiens qu'on ne pouvait plus aborder la réflexion sur le Christ simplement de façon intemporelle, mais qu'il fallait vraiment l'enraciner dans une considération de l'humanité concrète de Jésus. Voilà, eh bien on va faire une pause, si vous voulez, une dizaine de minutes, et puis ensuite on voyagera un peu, on quittera l'Europe pour justement tenter de découvrir les nouvelles réflexions qui se sont développées dans le champ de la christologie en dehors de l'Europe. L'un des phénomènes les plus importants de la réflexion christologique depuis 3 ou 4 décennies, c'est l'émergence et le développement de courants nouveaux en dehors de l'Europe. Et c'est à cela que je voudrais vous rendre sensible, avec, je le dis d'emblée aussi, la conviction que certains de ces courants ont déjà commencé de refluer de manière tout à fait intéressante et féconde sur la théologie européenne elle-même. Et je pense que ce processus n'est pas fini. On est sorti en quelque sorte, on sort d'une situation dans laquelle il y aurait une sorte d'apanage ou de privilège un peu unilatéral de la christologie européenne, mais on est conduit aujourd'hui à se rendre attentif à d'autres courants qui ont émergé ici et là. Alors, bien sûr, je suis obligé de faire des choix. Je vais privilégier plutôt certains continents. Je ne dirai rien de l'Océanie. On oublie toujours de parler de l'Océanie. Mais, bon, je suis obligé de faire des choix. Je vais quand même privilégier plutôt l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, beaucoup plus que l'Océanie ou que l'Amérique du Nord. Bon, faut reconnaître d'ailleurs que l'Amérique du Nord, dans une large mesure, est quand même, dans ses évolutions, enfin, assez liée aux évolutions de la christologie européenne, même si elle a aussi des traits spécifiques. Alors, commençons par l'Amérique latine. Disons que les nouveaux courants de la christologie qui se sont développés en Amérique latine sont apparus il y a une quarantaine d'années, il y a 40 ou 50 ans environ, dans le cadre d'un mouvement auquel on a donné le nom de théologie de la libération. Bon, c'est difficile d'en parler en peu de temps, parce que c'est quelque chose de complexe, et il n'y a pas une théologie de la libération, il y en a beaucoup. Bon. Mais disons que quand même, pour l'essentiel, les théologies de la libération sont des théologies qui se sont rendues attentives à la situation d'un certain nombre d'hommes, de groupes humains, de peuples, victimes de l'injustice ou de l'oppression ou de la grande pauvreté. Voilà. Et les pionniers de ces théologies dites de la libération en Amérique latine sont des gens qui ont voulu que la théologie puisse, pour sa part, contribuer à la libération, justement, de ces personnes victimes de l'injustice ou de l'oppression. Voilà, si vous voulez, l'intuition globale des théologies de la libération. Le coup d'envoi, si vous voulez, symbolique, ça a été la publication d'un livre du théologien péruvien Gustavo Gutiérrez, Théologie de la libération, au début des années 1970, Gutiérrez. Alors, je ne parle pas ici des théologies de la libération latino-américaine en leur ensemble. Je me concentre sur la réflexion christologique au sein de ces courants, ce qu'on appelle la christologie de la libération. Et l'un des théologiens qui ont le plus développé cette christologie de la libération, c'est en fait un théologien espagnol, mais qui a passé la plus grande partie de sa vie et qui est toujours actuellement en Amérique latine, c'est Jon Sobrino. Jon Sobrino. Ah ben, vous avez son nom sur la feuille. Jon Sobrino, donc, qui enseigne la théologie à l'université de San Salvador, un jésuite espagnol, mais qui, depuis longtemps, se trouve au Salvador. Alors, peut-être, écoutons-le. J'ai cité deux lignes de lui qui sont déjà, qui résument en quelque sorte, de façon très condensée, le programme, si je puis dire, de la christologie de la libération. À ses débuts, dit-il, la christologie de la libération a été liée à une praxis de libération historique et ecclésiale, et son intention la plus expresse a consisté précisément à tenter d'aider chrétiennement cette praxis. Si vous voulez, ce qui est à l'arrière-plan de ces christologies de la libération, c'est une expérience qui peut se résumer de façon assez simple, trois temps. Premier temps, on prend conscience d'une réalité sociale, politique, dans laquelle des hommes et des femmes sont victimes de l'injustice ou de l'oppression. Voilà. Deuxième temps, on lit la Bible, on relit certains passages de la Bible dans le cadre de ce qu'on appelle des communautés de base. Et à la lumière de la Bible, on découvre justement comment le message du Dieu de la Bible et spécialement le message du Christ est libérateur. Et puis, troisième temps, on revient dans la pratique et on essaye d'agir en vue d'une libération de ces hommes ou de ces groupes. Voilà, c'est la démarche en trois temps, qui est souvent exposée comme telle par les théologiens de la libération. Alors, cette christologie de la libération, donc, qui a le souci de trouver dans l'événement du Christ une force de libération pertinente aujourd'hui même par rapport aux conditions déshumanisantes dans lesquelles vivent un certain nombre de populations. Cette christologie de la libération a deux corollaires. Le premier corollaire, c'est une grande attention au lieu social dans lequel s'élabore la christologie et une grande attention à l'implication de ce théologien dans le lieu social en question. Alors, c'est un thème que les théologiens de la libération développent souvent. Ils disent « il n'y a pas de christologie neutre ». Toute christologie est nécessairement située. Toute christologie est nécessairement partisane. Et en général, ajoute-t-il, elle prend plutôt la position de ceux qui détiennent le pouvoir en place. Tandis que la christologie de la libération, disent-ils, implique, doit impliquer un engagement explicite, résolu, dans le sens de la justice et de la libération. Voilà. C'est un point tout à fait important, cet enracinement dans le lieu social. C'est quelque chose qui différencie ces christologies de la libération de ce qu'on a appelé à une époque les théologies politiques en Europe, dans la mouvance de 68, mai 68, hein, je parle pour les Français qui connaissent cela, dans la mouvance de mai 68, il y a eu, notamment en Allemagne, ce qu'on appelait des théologies politiques dans les années 70, c'est-à-dire des théologiens disaient il faut, à partir de notre réflexion théologique, lutter pour l'émancipation, pour une plus grande égalité, etc. Mais les théologiens de la libération disent vous, vous faites ça en Allemagne à partir de vos universités. Votre théologie est une théologie déductive. Alors, ils disent c'est bien que vous, à Tübingen ou à Cologne, vous réfléchissez ainsi, que vous disiez bon, notre théologie universitaire doit elle-même pousser à un engagement pour plus de justice dans la société. Bon, les théologiens de la libération rendent hommage à ces théologiens comme Moltmann ou d'autres qui réfléchissent dans cette ligne. Mais ils disent, nous, notre démarche n'a pas la même caractéristique, au sens où elle ne part pas d'abord d'un savoir universitaire, elle part d'abord d'une expérience de lecture commune de la Bible dans le cadre de nos communautés de base au sein d'un contexte social marqué par l'injustice et l'oppression. Donc le point de départ n'est pas le même. Bon, ça n'empêche pas que les théologiens de la libération aient souvent quand même fait de bonnes études de théologie, y compris en Europe. Gutiérrez a étudié en Belgique, pour prendre d'autres exemples. Mais c'est vrai que leur insistance, c'est nous partons non pas d'abord d'une théologie universitaire, nous partons d'abord du lieu social tel que nous l'identifions aujourd'hui en Amérique latine, dans le contexte des années 60 ou 70. Bon. Alors, le deuxième corollaire des christologies de la libération, c'est une prise de position sur l'accès réel au Christ. C'est tout à fait lié à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que pour les théologiens de la libération, l'accès réel au Christ n'est pas seulement de l'ordre du savoir, mais c'est de l'ordre de la pratique, ou comme ils aiment bien dire, de la praxis. Voilà. Les théologiens de la libération disent en quelque sorte, il ne s'agit pas simplement de savoir qui est le Christ, mais il s'agit de le rencontrer là où il est et là où il nous appelle à une action concrète pour la justice et la libération des pauvres. Bon, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est assez cohérent avec la position de Bultmann que j'évoquais il y a 8 jours, au sens où Bultmann aussi disait, par rapport à Barthes, vous rappelez le débat entre Bultmann et Barthes, hein, Bultmann disait, l'important c'est pas d'abord de savoir quantité de choses sur le Christ, l'important c'est de se laisser interpeller par le kérigme aujourd'hui. Voilà, le fait même que le Christ soit mort et ressuscité, est-ce que je me laisse, oui ou non, interpeller par cela? Donc, en ce sens-là, il y a une parenté. Mais on voit bien la différence aussi. Hein, c'est que pour Bultmann, il s'agissait au fond de la conscience individuelle du chrétien qui se laisse interpeller ici et maintenant par le kérigme. Christ est mort et ressuscité. Tandis que dans l'esprit des théologies de la libération, il s'agit d'une interpellation liée à l'action, d'une interpellation en vue de l'action. Ignace de Loyola, dans l'exercice spirituel, dit qu'il faut demander de mieux connaître le Christ pour mieux l'aimer et le suivre. Hein, ce que disait saint Ignace au XVIe siècle. On pourrait dire que la formule des théologies de la libération, ce serait de dire il faut essayer de prendre conscience de ce qui va contre la justice voulue par le Christ, ce qui va contre les exigences du royaume, et à partir de là, en effet, d'essayer de mieux connaître le Christ, mais précisément pour une transformation, pour une libération de ceux qui sont victimes de l'injustice. Alors, j'ai quelques lignes de Sobrino qui permettent au fond de rassembler ces différents thèmes que je viens d'évoquer. Sobrino écrit « Disons toutefois, dès le départ, ce qui nous paraît être le noyau christologique et théologique de la Christologie de la Libération, ce qu'elle a essayé de mettre en relief. Toute Christologie doit confesser que Jésus est le Christ. Mais ce que souligne la Christologie de la Libération, c'est que le Christ n'est autre que Jésus. Toute théologie doit affirmer que Jésus est Dieu, mais ce que souligne la Christologie de la Libération, c'est que nous ne savons ce qu'est Dieu qu'à partir de Jésus. » Je parlais tout à l'heure des Christologies d'en bas, étant avec les théologies de la Libération, on est en plein dans la mouvance de ces théologies de la Libération, de ces théologies d'en bas. D'ailleurs, enfin, vraiment, les théologies de la Libération ont reconnu leur dette hein, vis-à-vis de ce mouvement christologique marqué par la redécouverte des Christologies d'en bas. Voilà, alors Sobrino continue, « C'est là, croyons-nous, le noyau de la foi, qui est à la fois bonne nouvelle et scandale. Il y a là un scandale pour l'homme naturel qui croit a priori savoir déjà ce qu'est être homme et ce qu'est être Dieu et qui prétend juger la vérité de Jésus à partir de ce savoir préalable. Mais cela est surtout scandaleux et cela le demeure même pour les croyants lorsque, a posteriori, l'homme véritable apparaît comme pauvre, serviteur, anéanti et crucifié et glorifié seulement pour cela et à travers cela, lorsque le Dieu véritable apparaît comme prenant parti pour les pauvres et les opprimés, comme libérateur par amour, comme celui qui livre son fils, soit, selon une métaphore audacieuse, comme Dieu libérateur et crucifié. Et cela devient doublement scandaleux lorsque c'est précisément ce Jésus, vivant ainsi son humanité et rendant définitivement présent ce Dieu, qui annonce la bonne nouvelle qu'il est. Réunir scandale et bonne nouvelle, cela est scandaleux pour la raison naturelle, mais cela est la substance de la foi chrétienne. Cela est, en tout cas, sous forme synthétique, l'essentiel que nous avons tenté d'exposer dans nos réflexions christologiques. Voilà, c'est ce texte qui est au fond une déclaration de programme hein, des Christologies de la Libération. Alors, dans le cadre de cette conception que je viens de résumer, les Christologies latino-américaines de la Libération développent de façon privilégiée un certain nombre de thèmes. Un premier thème constant dans ces christologies, c'est bien sûr le thème de Jésus libérateur. Voilà, Jésus libérateur. Jésus, on en a parlé bien des manières tout au long de l'histoire. Hein. Jésus rédempteur, Jésus illuminateur, Jésus sauveur, bien sûr. Les théologies de la libération mettent en avant cette catégorie, Jésus libérateur. Cette insistance sur Jésus libérateur se fonde pour eux sur le témoignage de la Bible. Alors, avant d'en venir au Nouveau Testament, les théologiens de la Libération rendent attentifs à un certain nombre de textes de l'Ancien Testament, déjà, qui insistent beaucoup, de façon très concrète, sur l'exigence de libération. En particulier, il y a deux thèmes qui reviennent constamment dans les écrits des théologiens de la libération. C'est d'une part la libération de la servitude en Égypte, l'Exode, qui est comprise comme une sorte de modèle, de paradigme, d'une certaine manière, de ce que doit être une libération d'un peuple, hein, pas seulement des individus, hein, mais la libération d'un peuple. C'est ça qu'ils ont en vue. Et puis, un autre thème vétérotestamentaire très très important pour eux, c'est la dénonciation par les prophètes, hein, la dénonciation de l'injustice, de l'oppression. Enfin, vous connaissez les fameux textes d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, hein, s'en prenant à tous ceux qui sont complices de l'oppression des pauvres, de la veuve et de l'orphelin. Mais c'est vrai que l'accent sur Jésus libérateur conduit les théologiens de la libération à insister particulièrement sur le témoignage des évangiles eux-mêmes. Et dans les évangiles, ils braquent le projecteur, si je puis dire, hein, sur des paroles de Jésus ou des épisodes qui leur semblent particulièrement parlants dans le contexte social de l'Amérique latine en ces années 1970 ou 80. Comme par exemple la prédication de Jésus à la synagogue de Nazareth. Jésus citant Isaïe, l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer là-bas la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer la libération pour les captifs, etc. Ou encore un autre texte qui est constamment invoqué par les théologies de la libération, c'est la parabole dite du jugement dernier en Matthieu 25. Hein, ce que vous aurez fait au plus petit entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait, etc. Toujours à propos du Nouveau Testament, les théologiens de la libération réfléchissent beaucoup sur ce qui a conduit à la mort de Jésus. Jésus a été victime de son engagement même pour la justice du royaume, et il en est mort. Mais il est aussi ressuscité, et la résurrection, telle que la comprennent les théologiens de la libération, confirme l'authenticité du message de Jésus qui dénonce l'injustice et proclame les valeurs du royaume. Donc ça, c'est le premier thème très très important dans ces théologies de la libération. Donc l'insistance sur le message biblique de la libération, et principalement donc le message de Jésus comme libérateur. Alors un deuxième thème qui est très souvent développé par ces théologies, c'est l'idée de la suite de Jésus. Ce qu'on appelle parfois la christologie pratique. La christologie, bon, dans christologie, il y a le mot logos, qui veut dire parole. La christologie, pour les théologiens de la libération, ne doit pas être seulement une christologie, ou en quelque sorte, elle est fausse si elle est seulement une christologie. Elle est fausse si elle ne s'accompagne pas d'une christopraxie, comme ils disent, c'est-à-dire d'un engagement concret, cohérent avec ce que l'on dit. Voilà. Donc il ne suffit pas d'enseigner la christologie, vous comprenez. Il ne suffit pas d'enseigner la christologie, il faut pratiquer. Il faut avoir une praxis correspondant à ce qu'on enseigne. C'est pas simple. Bon. Alors je vous cite quelques lignes d'un autre théologien de la libération, Leonardo Boff, dans son livre intitulé précisément « Jésus-Christ libérateur », il écrit ceci. « Le point faible de la christologie classique d'Emmanuel coïncide avec ce qu'elle estime son point fort, la spéculation philosophico-théologique. Elle n'a pas conduit à une éthique et à un comportement qui serait typiquement chrétien. » Le thème fondamental des évangiles synoptiques, « Suivre le Christ », a été fort peu thématisé et traduit en attitude concrète. L'orthodoxie, c'est-à-dire la justesse de la pensée sur le Christ, avait le primat sur l'orthopraxie, c'est-à-dire la justesse de l'agir à la lumière du Christ. Nous savons toutefois que pour le Christ et l'Église primitive, l'essentiel n'était pas de ramener le message du Christ à des catégories systématiques de compréhension intellectuelle, mais de créer de nouvelles manières d'agir et de vivre dans le monde. Ce moment praxéologique du message du Christ est particulièrement sensible dans la réflexion théologique de l'Amérique latine. Et puis, troisième thème, alors plus récent, mais fort important aussi pour ces théologies, c'est l'idée que les pauvres sont le lieu de la christologie. Voilà. Le thème de l'option pour les pauvres, ou l'option préférentielle pour les pauvres. Les pauvres comme le lieu de la christologie. Alors, il y a eu des débats là-dessus, parce que, plus récemment, il y a une quinzaine d'années à peu près, John Sobrino et d'autres théologiens de la libération sont même allés jusqu'à développer la catégorie de peuple crucifié. Voilà, le peuple des pauvres peut être évoqué comme un peuple crucifié. Alors, ça a suscité quelques remous. Du côté de Rome, on a demandé des explications, parce qu'on a eu peur que cette catégorie de peuple crucifié appliquée aux pauvres, d'abord, est-ce que ce n'est pas beaucoup trop global, quoi ? Est-ce que tous les pauvres peuvent être rassemblés sous la catégorie d'un peuple crucifié ? Plus encore, je pense que la crainte qui était celle de la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'était la crainte que cette présentation du peuple des pauvres comme peuple crucifié ne soit une manière de relativiser quelque peu l'unicité de Jésus comme crucifié. Voilà. Il a été crucifié dans un sens unique et de manière unique. Voilà. Mais Yann Sobrino et d'autres se sont expliqués par rapport à cela. Et je pense qu'il y a une intuition très très profonde. On peut discuter, on peut contester la catégorie peuple crucifié, mais je pense en même temps qu'il y a une intuition profonde à travers cela, qu'on pourrait exprimer d'une autre manière, peut-être moins discutable, par exemple en rappelant tout simplement le verset paulinien, il faut que je complète ce qui manque aux souffrances du Christ dans son corps qui est l'Église. Ou bien ce que dit Pascal, Jésus-Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Enfin, on trouverait dans la tradition des textes qui me semblent aller dans ce sens. Et en tout cas, qu'on le veuille ou non, des hommes ou des femmes qui sont, disons, injustement victimes de l'injustice ou de l'exploitation, qu'on le veuille ou non, ils sont bien, de quelque façon, mystérieusement associés à la croix du Christ. C'est ça qu'on peut entendre, me semble-t-il, à travers l'expression « peuple crucifié », même si cette expression est peut-être un peu trop globale. Voilà. Alors, j'ai surtout mis l'accent sur la pensée de Yann Sobrino, parce que je pense que c'est quand même lui qui a le plus contribué à développer cette christologie de la libération, mais on pourrait citer d'autres théologiens, comme par exemple Juan Luis Segundo, qui est un théologien uruguayen, qui a une approche un peu différente. Pour lui, il ne s'agit pas tellement de proposer une nouvelle christologie, mais il s'agit plutôt de manifester l'apport de Jésus au processus d'humanisation. Voilà, c'est ça qui est important. Dans le contexte de l'Amérique latine, pour Segundo, ce qui est important, c'est de manifester comment le message de Jésus, son action, son œuvre, et bien sûr sa destinée jusqu'à la mort, sont susceptibles d'œuvrer au processus d'humanisation qui est nécessaire dans des sociétés marquées par l'injustice. Il faut amener des hommes, des femmes à rencontrer Jésus sur le sol des questions humaines ultimes, là où sont en jeu des affaires de vie ou de mort pour l'existence. Bon, encore une fois, c'est quand même Sobrino qui a le plus contribué à développer cette christologie latino-américaine de la libération. Alors, je redirai bientôt un mot sur l'évolution de ces christologies de la libération, mais auparavant, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il y a eu un impact de ces christologies latino-américaines de la libération sur d'autres continents. Par exemple, aux États-Unis, on a vu se développer à peu près dans la même période, les années 1960-1970, des réflexions christologiques qui étaient fondées sur une vive conscience de l'inégalité subsistant entre les blancs et les noirs. Voilà. malgré la reconnaissance de l'égalité des droits. Mais bon, on a en mémoire Martin Luther King, voilà. Et puis, ce courant, cette christologie originale qui s'est développée aux États-Unis, bon, qui est quand même beaucoup moins présente aujourd'hui, hein. Surtout depuis que le président des États-Unis s'appelle Barack Obama. Enfin, bon, il y a quelque chose qui est... Enfin, il reste quand même aux États-Unis. Il y a quand même, quand on se promène dans certaines villes, ce qui m'est arrivé, on voit bien, il y a quand même des quartiers où il y a uniquement des Blancs et des quartiers où il y a uniquement des Noirs. Donc, malgré l'égalité des droits, il y a bien aussi quand même des séparations qui demeurent et qui peuvent avoir des impacts au plan scolaire, par exemple. Donc, c'est pour dire qu'on comprend qu'il y a eu aux États-Unis aussi un courant, on ne peut pas dire tellement inspiré par les christologies latino-américaines de la libération, puisque c'était contemporain, mais justement un courant participant un peu de la même mouvance, mais dans un autre contexte, celui de, voilà, des rapports difficiles entre les Blancs et les Noirs, sur le fond, bien sûr, d'une expérience, l'expérience des guerres, enfin des conflits violents du XIXe siècle. Il faut se rappeler quand même que c'est au XIXe siècle qu'a émergé aux États-Unis la splendide littérature des Negro Spirituals, hein, tous ces chants qui sont nés, au fond, d'une expérience de lecture des évangiles au sein de communautés chrétiennes, protestantes surtout en l'occurrence, qui se trouvaient marginalisées ou injustement exploitées par les Blancs. Donc c'est, voilà, y a ce courant-là qui, en particulier dans les années 60-70, a été assez important aux États-Unis et qui se référait lui-même à la tradition de ces Negro Spirituals et de tout ce qui les avait accompagnés au XIXe siècle. Je vous signale, il y a un très beau livre, hein, sur ce sujet de Bruno Chemu. Très beau livre, qui s'appelle Le Christ noir américain. Le Christ noir américain. Alors, autre métamorphose, si je puis dire, hein, autre figure, hein, des christologies de la libération dans d'autres continents que l'Amérique latine, eh bien, c'est ce qu'on appelle les christologies féministes en Amérique du Nord, hein, États-Unis et Canada. Alors là, pour le coup, on peut parler d'une influence. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que les théologiens, ou surtout les théologiennes, en l'occurrence, des États-Unis ou du Canada, les théologiennes qui relèvent de ce courant, ont été inspirées par les christologies latino-américaines de la libération et les ont en quelque sorte actualisées dans le contexte de la société, des sociétés d'Amérique du Nord, et aussi dans le contexte de la réalité ecclésiale. On a là aussi une démarche en trois temps, comme pour les christologies latino-américaines de la libération. Le premier temps, c'est le constat de l'expérience actuelle, bien qu'on le veuille ou non, des femmes sont injustement traitées ou n'ont pas le statut qu'elles devraient avoir dans la société. Hein. Deuxième temps, on lit ou on relit les évangiles, ou plus largement le Nouveau Testament. Et, troisième temps, on en recueille le principe d'une action de libération pour le présent. Une sorte de transposition, si vous voulez. Alors, je peux l'illustrer par un texte d'une théologienne nord-américaine, justement, Anne Carr, une Canadienne, qui montre comment la découverte ou la lecture des évangiles a une puissance de libération par rapport à ce contexte auquel les théologiennes féministes sont précisément sensibles. Elle dit ceci, « L'expérience actuelle des femmes dans l'Église est le point de départ de la théologie féministe. » Donc toujours l'expérience au point de départ. Hein. L'expérience, ce n'est pas une théologie académique d'abord, c'est point de départ de l'expérience. Et puis, à cette lumière, donc, on relit les Écritures. Dans les Écritures, dit-elle, les femmes découvrent non seulement le thème du chef, dont l'histoire fut en réalité si négative, mais aussi des récits libérateurs sur les relations de Jésus avec les femmes, ces rejets audacieux de la famille patriarcale, de l'ordre social et religieux dans son rapport au royaume, à l'implication des femmes dans son ministère et dans les premiers mouvements chrétiens, et un pluralisme des images du Christ dont les unes corrigent les autres quand on les envisage sous l'angle de l'expérience féminine. La plupart des interprétations féministes contemporaines du Christ sont enracinées dans les histoires évangéliques sur Jésus, la parabole de sa vie et de ses actes, le modèle de vie humaine et de relations divin-humain que suggèrent les premiers témoignages le concernant. Ces histoires révèlent non seulement qui est et non qui était Jésus pour les communautés de disciples, mais qui est Dieu et qui nous sommes. Les femmes contemporaines trouvent dans le témoignage du Nouveau Testament une vérité transformatrice sur la liberté remarquable de Jésus et son ouverture aux femmes. Les récits d'intégration de femmes parmi les disciples, ses amitiés avec Marie de Magdala et avec Marthe et Marie, son utilisation positive d'images de femmes dans les paraboles, sa façon de briser les tabous en parlant à des femmes samaritaines et syrophéniciennes, ainsi que le fait d'avoir fait des femmes les premiers témoins de la résurrection, constituent les fondements narratifs importants de la christologie féministe. Alors c'est ça, d'avoir fait les femmes les premiers témoins. C'est pas un français excellent, hein. Mais peu importe, c'est une traduction. Hein. Voilà, donc c'est assez clair, on voit comment il y a une sorte de transposition dans un autre contexte de la démarche qui était celle des théologiens latino-américains à propos de l'injustice sociale. Mais il y aurait encore d'autres figures des christologies de la libération. Par exemple, en Afrique, au sud du Sahara, je pense aux théologiens camerounais Jean-Marc Ella, qui a beaucoup écrit sur ce que peut être une expérience de libération pour des populations du Cameroun ou de l'Afrique subsaharienne, mais également en Afrique du Sud. Alors, moins maintenant, mais il y a une trentaine d'années, il y a une quarantaine d'années, il y avait des théologiens qui, surtout à l'époque de l'apartheid, des théologiens qui reprenaient la démarche des christologies latino-américaines de la libération en les transposant au contexte de l'Afrique du Sud et, bien sûr, en Asie où c'est même actuellement très présent. Je pense à un théologien de Sri Lanka, Aloysius Pieris, qui a écrit un livre qui est traduit en français et dont le titre est tout à fait révélateur. Il y a des Sri Lankaises parmi vous, peut-être ? Non, je ne sais pas. Oui, voilà, donc Sri Lankaise. Aloysius Pieris habite et travaille près de Colombo, centre Tulana, on prononce comme ça, Tulana, un centre de dialogue entre chrétiens et bouddhistes. Voilà. Et donc il a écrit un livre qui s'intitule « Une théologie asiatique de la libération », tout à fait typique. Alors, il reprend l'idée des christologies latino-américaines, simplement il dit on ne fait pas la même chose qu'eux parce que nous sommes asiatiques et non pas latino-américains, et qu'en Asie nous devons prendre acte du contexte éminemment religieux, la religiosité du continent asiatique. Voilà, donc il se démarque en même temps de l'Amérique latine, mais il s'en inspire aussi. Voilà. Donc c'est assez impressionnant de voir comment ces courants latino-américains se sont en quelque sorte métamorphosés. Ils ont pris d'autres figures dans d'autres continents. Et on peut ajouter qu'en Europe même, ces courants ont eu un impact dans la mesure où ils ont servi parfois de référence à, par exemple, des mouvements comme ATD Quart-Monde. Par exemple, on a relu les œuvres ou les écrits du père Joseph Wresinski. C'est pas la théologie de la libération. D'ailleurs, Joseph Wresinski a commencé son œuvre bien avant les théologies de la libération. Et en même temps, l'importance de ce courant des christologies de la libération a rendu davantage certains théologiens européens attentifs à ce qui est en jeu, précisément, dans un certain nombre de pensées qui ont émergé en Europe, qui se sont développées dans le contexte, précisément, d'une attention aux pauvres, hein, en l'occurrence le quart-monde. Alors, je fais quand même retour à l'Amérique latine. Vous avez dû remarquer que j'ai surtout parlé des Christologie latino-américaine de la libération, j'en ai surtout parlé au passé. J'ai souvent dit, dans les années 70, 80, j'ai utilisé le passé composé, beaucoup plus que le présent. Il y a des raisons à cela. On n'est pas sans savoir que les théologies de la libération ont eu un peu de mal à se faire reconnaître. Il y a eu quand même deux instructions de la Congrégation pour la doctrine de la foi au début des années 80. Mais on pourrait dire que ce problème est dépassé. Ce problème est dépassé parce que les théologies de la libération, qui étaient soupçonnées parfois de se compromettre avec des analyses marxistes de la société, ces théologies, justement, ont fait valoir la justesse de leurs intuitions. Bon, les théologiens ont reconnu que parfois ils avaient pu se tromper, mais ils ont dit, pour l'essentiel, nous maintenons que l'Évangile doit rendre attentif à des situations d'injustice et que le message du Christ est un message qui invite à une œuvre ou une action de libération, quelles qu'en soient les formes. Et c'est frappant de voir qu'au niveau du magistère, il y a eu en fait progressivement, sous Jean-Paul II, une intégration progressive des meilleurs apports de la théologie de la libération. Puisque Jean-Paul II lui, en est venu à parler de l'option pour les pauvres, et il a même repris dans l'une de ses encycliques l'expression des structures de péché. Les théologies de la libération disent que ce n'est pas simplement des individus qui sont pécheurs, mais le péché est inscrit aussi dans des structures économiques, sociales. Jean-Paul II n'a pas hésité à reprendre cela à son compte dans une encyclique. Donc le problème n'est plus vraiment de ce côté-là. On peut dire qu'en gros, il y a une intégration des meilleures intuitions des théologies de la libération. Le problème vient plutôt des... En fait, le problème est plutôt lié aux évolutions de l'Amérique latine. Le contexte des années 60, 70, c'était quand même un contexte particulièrement difficile au plan social et politique, dictature de Pinochet, ce qui se passait en Argentine, etc. Alors, je ne veux pas dire que tout soit rose aujourd'hui, mais enfin, il y a quand même un sens d'évolution par rapport à ça. Et par contre, il y a des problèmes nouveaux qui ont surgi. Et les théologiens chrétiens, aujourd'hui, en sont très conscients. Il y a des problèmes nouveaux qui ont surgi et des problèmes qui n'étaient pas tellement pris en charge par les christologies latino-américaines de la libération. Les problèmes, c'est d'abord le fait que les mouvements pentecôtistes, mouvements évangéliques en général, mais plus spécifiquement les mouvements pentecôtistes, se sont considérablement développés en Amérique latine. Et que parfois, ça fait concurrence au courant de la libération. L'optique n'est pas du tout la même. Dans le cas des théologies de la libération, on se réunit dans des communautés de base. On lit l'Évangile pour essayer de, au fond, de s'engager dans une libération des groupes marginalisés ou victimes de l'injustice. Dans le cadre des mouvements évangéliques, et notamment pentecôtistes, avant tout, on se réunit pour célébrer, pour prier, pour enfin, les grandes célébrations communautaires. On est beaucoup plus sensible aux guérisons. Enfin, il y a des traits fort différents de ceux sur lesquels insistaient les christologies de la libération. Et puis, on s'aperçoit en Amérique latine qu'il y a un certain nombre de questions qui n'étaient pas prises en compte. Les christologies de la libération s'intéressaient surtout à l'injustice au plan économique, social et politique. Mais depuis lors, en Amérique latine, on a fait savoir qu'il y a aussi des questions culturelles qui se posent. Comment se situer par rapport à... aux aspirations culturelles de certaines populations dans les Andes, par exemple, ou dans certaines régions de l'Amérique latine, avec un héritage fort ancien, même s'il a été, pour une bonne part, détruit par les colons espagnols au XVIe ou XVIIe siècle, espagnols ou portugais. Il y a aussi des problèmes nouveaux concernant l'écologie, la forêt amazonienne, etc., qui n'étaient pas du tout pris en compte. Alors, ça aboutit à une situation assez différente. Aujourd'hui, les christologies de libération existent toujours. Il y a des théologiens qui s'engagent vraiment dans ce sens, mais je dirais c'est moins exclusif. Il n'y a pas que cela en Amérique latine. Alors, il y a eu un très bon article dans la revue Études, il y a quelques années, en 2005, un article écrit par un théologien qui enseignait à Belo Horizonte, au Brésil, dans lequel il dit ceci. Au fond, c'est une sorte de plaidoyer pour l'engagement toujours présent des théologies de la libération, mais moyennant un certain nombre de requêtes nouvelles. Il dit ceci, La théologie de la libération poursuit son chemin, fidèle à l'option pour les pauvres dans la perspective de leur libération. La prise en compte de la réalité des pauvres a gagné en extension et en compréhension, incluant l'ethnie, le genre, la religion et le cosmos. Autrement dit, les christologies de la libération ont dû élargir leur champ, ne plus s'intéresser seulement aux questions de l'injustice économique et sociale, mais elles ont dû s'intéresser aussi à d'autres questions qui, justement, nécessitent une réflexion dans leur ligne. Et le même théologien poursuit, donc la théologie de la libération lie ces thèmes nouveaux à la libération des pauvres. Ainsi a-t-elle conservé son originalité et sa pertinence, marquant sa présence dans la société et dans l'Église. Voilà. Donc on est un peu dans cette situation aujourd'hui. Il faut reconnaître que les christologies de la libération n'ont pas, comment dirais-je, ne bénéficient pas partout de la faveur dont elles bénéficiaient davantage il y a 30 ou 40 ans, mais elles continuent quand même leur chemin, à condition cependant d'élargir leur champ de questionnement et de ne plus simplement s'intéresser aux situations créées par l'injustice ou l'inégalité sociale et politique. Elles doivent aussi prendre en compte désormais d'autres problèmes du type de ceux qui sont évoqués par ce théologien libanio. Voilà. Moi, il y a quelques années, j'avais invité Gustavo Gutiérrez, qui est considéré comme le père de la théologie de la libération. Je savais qu'il était de passage en France. Je l'avais invité à venir ici même, au Centre Sèvres. Et je me rappelle vraiment ce qu'il avait dit, qu'on lui avait posé des questions sur les évolutions de la théologie de la libération. Il avait dit, c'était très très beau, il avait dit, alors même qu'il avait été l'un des pionniers de cette théologie, il avait dit, bon, la théologie de la libération, elle peut très bien passer, elle peut très bien disparaître. C'est normal, à chaque époque, dans l'histoire de l'Église, il y a des courants théologiques qui se sont développés, et puis ensuite, ils ont perdu leur impact. La théologie de la libération, elle peut très bien disparaître. Mais il y a une chose qui ne peut pas disparaître, qui ne pourra jamais disparaître, c'est l'option pour les pauvres. Je trouve ça très beau. Et c'est ça, au fond, le message que la christologie de la libération nous lègue aujourd'hui, quelles que soient ses ambiguïtés, parfois certaines théologies ont pu se tromper, ont pu durcir leur position. C'est vrai. Mais indépendamment de ça, la part de vérité qu'elle nous livre et qui, je crois, doit être absolument entendue par une christologie aujourd'hui, c'est justement l'option pour les pauvres. Il y a là quelque chose qui appartient, qu'on le veuille ou non, au message de l'Évangile. Et il faudra s'en souvenir, ça et là, dans la suite du cours. Bon, il est clair que je n'ai pas le temps d'aborder l'Afrique ni l'Asie. Donc, bon, c'est pas grave. Hein. Je ne pensais pas terminer aujourd'hui. On continuera. Si vous avez une ou deux questions sur les sujets de libération, je pourrais peut-être encore y répondre avant. Il reste 2-3 minutes. Et puis sinon, on continuera. Oui ?
L'action catholique.
Oui ? Il y a des parentés, je pense. Ça serait d'ailleurs très intéressant, je pense, de comparer les méthodes. Il y a peut-être quelque chose de plus radical, je pense, dans la théologie de la libération, mais il y a vraiment des parentés de fond. L'idée qu'il faut voir une situation, la juger, et avant d'agir, ça se retrouve bien de part et d'autre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'émergence, le développement de ces courants christologie de la libération en Amérique latine, nous aide aussi, paradoxalement, en Europe, à prendre conscience ou à reprendre conscience de ce qui fait aussi partie de notre histoire. De notre histoire parfois assez récente, dans le cas de l'action catholique. Récente ou actuelle, à tête d'écart monde, que j'ai cité. Oui. 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 Alors ça, je n'ai pas du tout parlé, parce que si vous voulez, ça touche beaucoup plus largement l'éthologie de libération, ça touche pas directement la christologie, mais ça fait partie des raisons qui ont dû être clarifiées. Bon, hein. Disons que c'est vrai qu'il y a eu, dans ces courants de la libération, il y a eu parfois des erreurs, l'un ou l'autre représentants de ces courants qui disaient qu'on pouvait carrément faire appel à la violence dans certaines situations. Enfin, il y a eu des dérives, comme dans tout courant théologique. Hein. Donc il faut toujours arriver, il faut un peu de recul, quoi, pour décanter et faire le départ entre ce qui est solide et ce qui est plutôt une déviation. Quoi. C'est vrai. Voilà. Eh bien, donc nous nous retrouvons mardi prochain. Et donc mardi prochain, eh bien, je présenterai les nouveaux courants de réflexion christologique, plus spécialement cette fois en Afrique et en Asie.